voix nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lainé rencontre Xavier Emmanuelli. Ce soir, la création du SAMU social et le secrétariat d'État.
Xavier Emmanuelli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous avez parlé hier soir de la maison de Nanterre dans laquelle vous travaillez à partir de 1992. La police y conduisait des vagabonds. Le délit de vagabondage existait encore. Un an plus tard, en 1993, vous créez le SAMU social de Paris. Qu'est-ce qui changeait par rapport à la maison de Nanterre?
La maison de Nanterre, c'était une survivance. À l'origine, c'était un lieu où on mettait les gens en prison. Si les gens ne pouvaient pas justifier qu'ils avaient un peu de sous, c'est un vagabond, c'est un délit de mendicité, on va l'enfermer. Et puis après, s'ils trouvent un petit peu quelque chose pour vivre, on le relâchera. Mais l'idée, c'est une prison. Après, il y a eu une maison de retraite pour les vieux, indigents. Puis après, il y a eu un centre médical. Puis finalement, c'est devenu un complexe, un hôpital intercommunal. Et il y avait à l'intérieur le CACH, centre d'accueil et de soins
hospitalier,
qui était ce lieu de réclusion où les gens, s'ils arrivaient le soir, ils devaient être enfermés. On les verrouillait, ils étaient enfermés avec. Ça pue l'enfer, là, quand vous rentrez là-dedans, puis c'était des bagarres, puis c'était. On était en France en 1992. Les couvertures n'étaient pas changées, donc ils attrapaient la gale, ils attrapaient tout ce que vous voulez. C'était. La misère était considérée comme une aliénation absolue. Et puis, la manière dont on ramassait les gens dans la tournée d'enfer, comme ça, dont on les traitait, j'ai vu, il y a un type dont j'ai encore le nom, je le livrerai pas ce soir, qui a tué d'un coup de poing un mec qui n'était pas dans l'axe, si j'ose dire. Pas agressif. Mais c'était un sous-personnel de la préfecture de police, parce que c'était cela qui était. Pas les infirmiers et les infirmières, c'était des blouses blanches. Et puis il y avait des oranges, c'est-à-dire ces anciens SDF qui devaient faire la discipline. Or, ces gens avaient un minuscule pouvoir. Et ils avaient horreur de leur passé. Et c'était extrêmement dur et cruel avec ces gens, ils leur passaient rien, ils leur tapaient. Donc devant cette indifférence, si vous voulez, cette indifférence, cette non-compréhension, je ne suis pas un dresseur de tort, je me dis c'est à moi de jouer. Et comme je connaissais bien le SAMU, je me suis dit je vais faire quelque chose de l'ordre du SAMU, où on va, où le concept c'est aller à la rencontre, c'est l'hôpital hors les murs, ben, je reprends le truc. Et au lieu de forcer les gens à venir, je vais dealer avec eux. On va leur demander s'ils voulaient bien nous suivre. Ça n'a pas trop bien marché, mais il faut que je vous raconte quelques épisodes avant. Quand j'ai créé ça, je me suis adressé aux autorités de mon hôpital, qui m'ont envoyé balader, de la DAS. On dit, mais on n'a pas des sous. Comme d'habitude, on n'a pas le budget, évidemment qu'on n'a pas le budget, parce que ça n'existe pas. Et puis, je trouvais pas, j'ai demandé à Croix-Rouge, une fois de plus, comme ils avaient fait pour MSF, la Croix-Rouge nous envoyait balader, parce que ça n'existe pas, la Croix-Rouge d'Île-de-France. Là, je me suis dit, je vais aller carrément au ministère.
Au ministère de la Santé ou de l'Intérieur?
La Santé. Bon, j'étais à MSF, j'avais une petite notoriété d'MSF. Donc, on m'a reçu, enfin, c'est pas la ministre qui m'a reçu. C'est une jeune femme un peu arrogante, vous savez comment sont les technos. Et la fille, dont j'ai le nom encore après toutes ces années, qui me brûle un peu, mais je ne vais pas le dire. Elle m'a reçu dans le salon, puis elle m'a regardé, sûr d'elle, quoi. Elle m'a dit, mais écoutez, docteur, c'est intéressant ce que vous dites, mais nous ne ferons pas votre système. Regardez la perversion, elle dit, ah bon ? Pas vos systèmes, vous allez faire apparaître une population que nous ne saurons pas traiter. ça qui est génial. Faire apparaître une population qui existait déjà, quoi. Alors j'ai dit, écoutez, j'étais un peu agacé. J'ai dit, redites-moi ça. Il m'a dit, en regardant dans les yeux, pas le même statut, vous allez faire apparaître une population, docteur, que nous ne pourrons pas traiter. Bon. Je suis parti, puis j'étais vexé quand même. Et puis, la Providence a parfois des sourires, vous savez. Quand j'étais nommé au gouvernement, je l'ai revue, cette fille. Et là, j'étais ministre. On a eu juste un échange de regards. Mais c'était bon, quoi. C'était super. Et j'avais fait le truc, malgré elle, malgré ses représentations. Or, en fait, la fille, c'est pas de sa faute. Elle reproduisait un système. Elle n'envisageait pas de faire autre chose que ce qu'on faisait. Une république radical-socialiste qu'on menait, une république laïque. Vous savez où allaient les gens ? Au métro Saint-Martin. Et vous savez, la légende de Saint-Martin, c'est celui qui a partagé son manteau. C'est un officier romain qui partage son manteau avec un clochard, enfin, un pauvre tout nu, au milieu de l'hiver. Et du coup, c'est un saint. C'est un officier qui a partagé sa cape. Il y avait bien des trucs privés, comme l'Ami de Pain à Paris, où il y avait la DASES aussi, qui avait premier arrivé, premier servi. Et après, plein de gens restaient dans la rue. Et donc, moi, ça ne me plaisait pas. Et puis surtout, la manière de ramasser les gens. Ça s'est fait parce que Chirac, maire de Paris, avait envie de le faire.
Pourquoi? Mais comment il a su que vous vouliez faire ça?
Parce que j'ai fait des pieds et des mains pour le rencontrer. Mmh. Ça a duré un an. Et puis, finalement, mon projet, il était écrit jusqu'à la moindre virgule. Il était connu de tous les conseillers, toutes les administrations, la DASES, la DAS, tout le monde le connaissait. Et donc, tout le monde surfilait le bébé, parce que personne ne savait par quel bout prendre. Et finalement, ils l'ont donné à Chirac en expliquant. Chirac, il leur a dit, je veux rencontrer ce phénomène. Et il l'avait lu de fond en comble. Il avait son idée derrière la tête, parce qu'il venait de créer la carte Paris Santé. D'une part, c'est l'ancêtre de la CMU. Et la deuxième chose, il était challenger pour la présidence, quoi. Et il s'est dit que c'est un bon coup, ça fait de communication. Mais le fond du problème, quand j'ai rencontré cet homme, il y a un moment de vérité. Bien sûr qu'il avait ça en tête. Et ce moment de vérité, ça a duré un matin. Il m'a convoqué, il y avait tout son entourage.
Sa garde rapprochée.
Plus que ça. C'est le premier cercle, deuxième cercle, les hauts fonctionnaires et tout. Et je parle. Et puis comme j'en avais gros sur la patate, je dis, vous savez, c'est comme si il y avait des gens qui étaient en trop dans le monde. Qui étaient... Ils n'avaient pas à être vivants. Et il encaissait, lui, comme ça. Et j'ai vu qu'il sautait sur sa chaise. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que vous dites? J'ai dit, oui, mais personne ne peut s'en occuper. Et puis ces gens, c'est des détritus de la société. Et personne, et tout ce qu'on peut faire, c'est les ramasser, comme la voirie. Les autres faisaient un peu la tronche, on peut dire. Et puis il m'a dit, Toubib, on va le faire, ton système. Je vais gagner là. Il dit, mais ceux-là, puis il montre aux fonctionnaires, ses conseillers, ceux-là vont vous mettre les bâtons dans les roues. Ben alors vous m'appelez. D'un seul coup, j'avais 25 ennemis mortels, bien entendu. Et bien sûr, j'ai jamais téléphoné, ben, c'était pas ça. Mais il me regardait avec des yeux de vipère. Mais ça s'est fait. Il ne m'a pas donné de sous, simplement c'est une méthode.
Ah, il ne vous a pas donné de sous?
Non, mais il ne les avait pas, où est-ce qu'il les aurait trouvés?
Mais par exemple, la maison de Nanterre, elle a été...
Pas comme ça. On ne peut pas créer des budgets. Par contre, c'était une méthode, comme le maire de Paris est aussi président du Conseil Général, il n'y a qu'à Paris que c'est ça. C'est donc il est président du département. Après. Il a demandé au Conseil Général d'appliquer les méthodes... de travail de nuit, mais c'était des trucs qu'ils connaissaient pas, que personne connaissait. À tel point que tout le monde avait les jetons. Ils pensaient qu'aller la nuit dans les rues, les gens allaient leur sauter à la gorge, quoi. C'était quelque chose d'inconnu, avec toujours la parano de savoir qu'il y avait l'île de la Terre dans les rues, dans le métro, qu'on allait se faire agresser. Le jour où j'ai eu l'hospice Saint-Michel, on a mis des barreaux, vous savez, et puis des caméras à tous les étages. Tellement il y a le fantasme de l'exclusion, c'est forcément des gens agressifs. Mais ça s'est fait. Alors évidemment, à l'époque, les gens faisaient leur service militaire. Il a dit, vous savez, je vais vous mettre à disposition les infirmiers des services militaires, qui a vu une bonne aubaine, plutôt que de soigner les corps-pieds à la caserne, de sortir dans les rues, c'était joyeux. Et on a fait un JIP, un JIP, comme formule juridique. Un JIP, c'est mettre à disposition, c'est-à-dire les administrations mettent du personnel à disposition, c'est-à-dire qu'ils sont payés par les administrations et sont mis à disposition du SAMU social. Les gens étaient... Donc j'ai eu... Devinez quoi ? Tous les vieux bourrins qui voulaient plus travailler, les vieux syndicalistes usés par... Et donc, ça a été une difficulté. Mais le truc était tellement puissant que les gens se sont réveillés. Et ma conclusion, c'est quand vous donnez une mission aux gens, une mission de sauvetage en l'occurrence, vous trouvez des gens disponibles. Et ces gens qui étaient quarantainisés parce que c'était des vieux usés, qui s'y croyaient plus, que tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est revendiquer sans espoir de voir les choses arriver. Tout d'un coup, vous avez vu ces gens se réveiller, d'être grandis, quoi. Mais c'est vrai.
Xavier Menuil, je repose ma question. Qu'est-ce qui est arrivé à la maison de Nanterre ? Elle a été gardée comme...
Non, elle a eu d'autres missions. C'est-à-dire qu'on les amenait à Nanterre, mais moi j'avais d'autres personnels.
Et vous aviez un autre lieu ?
Non. Le lieu, il est arrivé après. Nanterre, ça existait, mais c'était sur Paris. Et un jour, Chirac m'a dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous ai trouvé un lieu. Et pas tant. On a été à l'hospice Saint-Michel, c'était un tas de ruines. Il dit, c'est là pour vous, Toubib. Et c'était pas une bonne nouvelle. Mais en fait, on s'est aperçu que d'après le testament de Michel Boulard, qui était un homme au XVIIIe siècle, pour se mettre en règle au moment de mourir avec le bon Dieu, il avait fait une maison pour des pauvres, et un par arrondissement. Et... Mais son testament stipulait que ça ne pouvait être que pour des pauvres. Il ne savait pas donc quoi en faire, c'était tombé en ruine. On avait pris des grands morceaux pour faire le périphérique, des trucs pour faire une maison de retraite, mais il restait quand même ce tas de ruines. On avait volé jusqu'au zinc, mais c'était quand même là. Et il était protégé. On ne pouvait même pas évacuer. Et bien, il s'est arrangé avec la culture pour retaper ça. J'ai eu un hospice exemplaire, un château, quoi. Ça a duré longtemps, autrement on était hébergé à l'Armée du Salut à Montrouge, on était hébergé, vous savez, comme les commerces qui sont en train de changer, c'est les commerces éphémères, mais il y avait par exemple la réanimation de Cochin qui allait fermer, donc j'ai fait mon hébergement éphémère et avec des infirmiers. La maison de Nanterre, on a profité pour la faire évoluer. C'est-à-dire, en 93, déjà, on n'y croyait plus au délit de vagabondage. Le personnel a été formé. On s'est aperçu donc qu'on pouvait faire autrement, aussi dans l'approche. J'ai été aux sources de la culture. Il y avait les Américains, et en particulier l'école de Chicago, qui avait décrit c'est la proxémie, alors c'est Erwin Goffman, Edward Hall, Clark, tous ces gens ont écrit la micro-sociologie de la vie quotidienne. Pourquoi ils l'ont fait ? Parce que à la fin de la guerre de sécession, les Noirs sont montés vers le nord, vers Chicago, pour s'employer. Et les gens, ce sont des pragmatiques, regardez comment ils se mêlaient la population. Toutes les grandes migrations venues d'Europe, comment ça se passait ? Combien il faut de générations ? Il y avait une vraie culture, mais qui n'était pas appliquée, qui ne s'est pas appliquée dans le cas précis que moi je me suis approprié. Et ça a été, avec les connaissances que j'avais sur la prison, de connaissances de terrain, plus des gens qui avaient beaucoup bossé là-dessus, des sociologues, des anthropologues, il y a une vraie culture qui est apparue. Et donc moi, ça m'a beaucoup servi. Et donc la maison de Nanterre a été transformée, pas par le haut, par proximité avec ce que je faisais à Paris, si vous voulez. Et mon statut, c'était que j'étais praticien hospitalier à Nanterre et président du SAMU social de Paris.
Xavier Emmanuelli, le numéro du SAMU social, c'est le 115.
Oui.
Le numéro du SAMU, c'est le 15. Le SAMU social, c'est le 115.
C'est pas par hasard. Mais c'est Fillon, ça. Fillon était ministre des communications et de l'enseignement supérieur. Et je lui ai dit, c'était un numéro payant d'ailleurs, c'était 0800-306-306. Et j'ai dit, écoute, est-ce qu'on peut pas avoir un numéro gratuit qu'on puisse mettre dans la cabine téléphonique? Il n'y avait pas encore les... Il a dit, bon, écoute, je vais voir. Et il a eu envie de le faire. Il comprenait ce que je faisais. Et ça a été difficile à faire. Le numéro n'est paru que lorsque, après la dissolution du gouvernement auquel j'appartenais. Mais tout le travail a été fait. Et un numéro... Alors j'ai dit, quel numéro il faut? J'ai dit, écoute, le 15 médical, faisons le 115. Parce que j'avais fait apparaître un objet qui n'existait pas. Dire ça, il y avait plein d'associations, mais moi j'ai dit que ça sera le SAMU social. SAMU, ça veut dire service d'aide médicale d'urgence. Et les copains m'ont dit, écoute, t'as pas le droit de te servir de ça. J'ai dit, écoute, t'étais pas encore né, que j'étais déjà au SAMU, calme-toi. Et on va faire SAMU social, et au lieu de service d'aide médicale, ça s'appelle service ambulatoire d'urgence sociale. Et puis, ça s'est calmé. Le SAMU, c'était tombé dans le domaine public. Le SAMU social a pu exister comme un bébé tout fait qui sortait. Et donc, il a eu tout de suite du succès, si vous voulez. Mais ses origines, c'est quand même le SAMU qui a été le modèle référent. Hein. La culture de la prison, de la grande exclusion, puis surtout la culture de l'école de Chicago. Et après, il fallait travailler en transverse médico-psychosocial. Pas très facile dans un monde d'experts, le social d'un côté, le médical de l'autre, le psychiatrique enfin. Et donc, il a fallu travailler avec les trois forteresses.
Alors, il nous reste un peu de temps pour Xavier Emmanuelli. Vous rentrez au gouvernement,
oui,
en 1995, après la création du SAMU social. Vous êtes secrétaire d'État à l'action humanitaire. Vous y restez 2 ans. Juppé est Premier ministre. Comment ça s'est passé?
Oh, comme ça, j'étais déjà vieux. Puis moi, j'avais beaucoup combattu l'humanitaire d'urgence, oui, l'humanitaire d'État, quand j'étais à MSF, parce que je pensais que c'était pas le rôle du gouvernement. Vous voyez, comme quoi il faut savoir évoluer. Et il y avait longtemps que j'avais fini avec la politique, vous savez, après avoir pris des coups de bâton, vous dites, ça fait mal. Et donc, je vais vous raconter. Un jour, j'étais dans mes Algeco, Chirac faisait ses derniers moments de maire. Je ne savais pas s'il allait passer. J'étais avec des gens gentils, des ASH, c'est-à-dire c'est même pas des aides-soignants, mais gentils. Et des Antillais qui avaient une espèce d'empathie pour les gens. Et un jour, mon téléphone sonne dans mon Algeco, enfin fond de truc, j'étais avec mes gueux, vous savez, en train de téléphone sonne. Et je dis, Louis, va voir. Il va tout doucement quand même. Il a dit, vite, ça sonne. Il prend des phares. Ouais. Mais Xavier, c'est Chirac. Je dis, arrête tes conneries. Qui c'est? C'est Chirac. J'étais assez énervé. J'ai dit, allô, oui, c'est monsieur le maire. D'accord. Je vous passe monsieur le maire. Et alors, est-ce que vous travailleriez avec nous? Puis lui, il disait, content de l'aubaine, il fait, dis-y pour mon appart. Et donc, si vous voulez, il y avait une déconnexion entre le sérieux du truc et le baroque, que j'étais au fin fond de l'exclusion avec des gens qui étaient, oui, au fin fond du marasme. Et puis, après j'ai eu Vipin, peu de temps après, il dit, est-ce que vous entrerez au gouvernement? Puis alors, moi, ça m'a fait marrer. Moi, au gouvernement, puis quoi encore? Et en fait, tu peux pour faire quoi? Ben, l'humanitaire. Venant de MSF, il y a quelque chose de sinistre, en fait, de me demander ça, que l'humanitaire, charité, caritatif, rentrait dans un gouvernement, et en plus, qui n'était pas réputé de gauche. Entre parenthèses, mes copains de gauche me disaient tu fais de l'humanitaire en gouvernement, c'est une erreur. C'est droit de tous pour tous. Il n'y a pas besoin d'humanitaire dans un pays de droit. Tu peux le faire ailleurs. Premier contresens. Le deuxième, oui, tu fais un système pour pauvres. Donc tu vas stigmatiser des gens, alors que les gens, il y a un service public. Seulement, voilà, ça ne marche pas si bien que ça. Ça marche tant que vous n'êtes pas dans la grande exclusion. Quand vous êtes là, vous n'êtes jamais au bon guichet, vous voyez. Alors, je ne sais pas s'il fallait appeler ça humanitaire, pas humanitaire. Toujours est-il que je refuse. Le gouvernement, non, moi, très peu. Et puis, les copains, vous ne savez pas ce qui m'arrive, on me propose, entre vous, tu veux aller dans le gouvernement de droite, toi? Mais non, j'ai dit non. Puis après, d'autres qui m'ont dit, écoute, où tu crois à tes affaires? Et c'est là où tu peux transformer ton essai. C'est là que c'est d'autres manettes que les tiennes. Alors, c'est la société civile, personne ne t'en voudra. Ce en quoi il se trompait. Vas-y. J'ai hésité. J'ai demandé à ma femme, qui m'a dit, n'y va pas. Donc ça a été dur de prendre cette décision. Au matin, j'ai dit, j'y vais. Je vais vous dire que j'ai eu des moments intéressants. Et j'y étais. Je ne regrette pas parce que le slogan de l'époque, c'était la fracture sociale. Or, j'estimais que je savais des choses là-dessus. Un peu orgueilleux quand même. Mais je savais des choses. Et j'étais au gouvernement. Les gens pensaient que j'étais un ovni, quoi. Enfin, t'es plutôt gentil avec moi. C'était Guémard qui était ministre de la Santé. Les gens me regardaient. C'était Barreau, affaires sociales.
Ah, vous avez l'air moins.
Non, parce que j'étais. Oui, ils ne le comprenaient pas. C'était comme tout le monde, c'est quoi l'urgence sociale? Où est-ce que vous allez? C'est plutôt un concept. L'exclusion, c'était. Un concept. C'était René Lenoir qui avait créé ce mot en 1974. Et on comprenait pas. Après, en 80, c'était les politiques qui sont emparés du social. Bon, ils savaient très bien de quoi il s'agissait. C'était les gens sans boulot, sans logement, sans santé, tout ça. Et c'était un concept très politique de lutte de classe et que j'arrivais à comprendre leur manière de penser. Mais c'était pas ça pour moi. C'était vraiment une misère. Et puis, j'avais vu, moi, qu'il y avait une pathologie, une vraie pathologie. Quand vous ne regardez pas, dès que vous êtes au chômage, que vous n'avez plus l'image de vous, ça commence, des dégradations. Qu'on le dise, qu'on ne le dise pas. Alors, ce n'est pas la peine de dire on va les réinsérer. Les gens qu'on n'a pas insérés, comment on va les réinsérer? Et puis, les gens qui sont hors du temps, quand vous n'avez pas de rendez-vous, quand vous ne voyez personne, quand personne ne vous intéresse pas. Mais petit à petit, vous avez une espèce de repli sur vous-même, une honte, et vous perdez la notion du temps. Quand il n'y a pas de temps, ça ne défile pas. Et petit à petit, tous ces symptômes viennent s'accumuler et vous détruisent. Comme la mer détruit une falaise, petit à petit, il y a des petits grains qui tombent. Les gens qui étaient dans l'exclusion, c'est pas mécanique. On peut dire, il n'y a qu'à lui donner de même qu'il lui donne un emploi. Il n'y a qu'à, d'ailleurs, on le trouverait où, qu'à lui donner logement. Où est-ce qu'on veut le prendre? Dans le 16e? Ou en grande banlieue? au Préousset, c'est à eux qu'on va s'adresser. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'idéologie. Moi, je connais très bien, on a envie de se raconter une histoire. Il y a ça à faire. Mais il y a des contresens. C'était quoi l'exclusion? Pour moi, il fallait d'abord les soigner, avant de insérer qui dans quoi, avec quel métier. Est-ce qu'il sera un jour cosmonaute, polytechnicien, énarque, politique? Non. C'est un boulot, ça sera toujours un petit boulot de rencontre. Donc, si vous voulez, il y a une littérature qui ne colle pas à la réalité, qui rend les gens... Le poids de la misère, ça veut dire quelque chose, vous savez, le poids de la misère. Insérer, ça veut dire soigner. Or, j'ai eu affaire à l'idéologie qui dit le housing first. Ah oui, donner un logement, c'est essentiel pour... D'accord, d'abord, vous allez le prendre où? Un logement, si vous n'avez pas travaillé avec le mec, comme disait mon copain Dominique, hein, si t'as pas des étapes, les gens qui sont dans la rue, tu mets dans un logement, ils transportent la rue dans leur logement. Mais c'est... Il y a des étapes, il y a des codes, il y a des... Et donc voilà, il y avait un grand, grand malentendu. Ça a été difficile. C'est pas un chemin de rose, hein, ce qui m'est arrivé au gouvernement.
C'est-à-dire que les malentendus ont continué, même lorsque...
Ils continuent,
mais pour vous, ça a été 2 ans de malentendus, Xavier Emmanuelli?
Non.
Qu'est-ce que vous avez réussi à faire?
Oh, ça, c'est une question traître, ça. Je ne sais pas. Par exemple... J'ai fait interdire les mines antipersonnelles. J'ai fait créer le 115. J'ai fait ouvrir des pensions de famille. J'ai créé les cellules d'urgence médico-psychologiques, vous savez, les psychologues, après les attentats. J'ai fait mille et une petites choses. Mais la loi contre les suicides, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai beaucoup travaillé, c'était ma loi. Elle aurait dû s'appeler la loi Emmanuel, j'aurais été content. J'avais fait travailler toutes mes équipes. Puis il y a eu la dissolution. Et la loi est arrivée 2 ans après, mais pas... C'était l'autre équipe. D'ailleurs, Martine Aubry, c'était la ministre des Affaires Sociales après, elle m'a dit, tu sais, Xavier, ton boulot n'a pas été fait en vain. On a repris, évidemment, on a repris des éléments, parce qu'on n'a pas les mêmes. Je savais bien qu'il n'avait pas pensé comme... Mais moi, j'avais une pensée de médecin. J'avais une pensée de médecin. Pas de politique. De médecin. Mais maintenant... Mais les gens dans la rue ne sont toujours pas correctement pris en charge.
Merci Xavier Emmanuelli. À demain soir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Xavier Emmanuelli. À voix nue, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Frédéric Quéroux, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.